Deuxième partie, chapitre 12. Depuis plusieurs nuits, mon père, mon grand-père, un de nos cousins, veillaient et ne sortaient plus de la maison. Leur dévouement continu finissait par prendre un masque d'indifférence, et l'interminable oisiveté autour de cette agonie leur faisait tenir ces mêmes propos qui sont inséparables d'un séjour prolongé dans un wagon de chemin de fer. D'ailleurs, ce cousin, le neveu de ma grand-mère, excitait chez moi autant d'antipathie qu'il méritait et obtenait généralement d'estime. On le trouvait toujours dans les circonstances graves, et il était si assidu auprès des mourants que les familles, prétendant qu'il était délicat de santé, malgré son apparence robuste, sa voix de basse taille et sa barbe de sapeur, le conjurait toujours avec les périphrases d'usage de ne pas venir à l'enterrement. Je savais d'avance que maman, qui pensait aux autres au milieu de la plus immense douleur, lui dirait sous une toute autre forme ce qu'il avait l'habitude de s'entendre toujours dire. « Promettez-moi que vous ne viendrez pas demain, faites-le pour elle. Au moins n'allez pas là-bas, elle vous avait demandé de ne pas venir. » Rien n'y faisait. Il était toujours le premier à la maison, à cause de quoi on lui avait donné, dans un autre milieu, le surnom que nous ignorons de « ni fleur ni couronne ». Et avant d'aller à tout, il avait toujours pensé à tout, ce qui lui valait ces mots. « Vous, on ne vous dit pas merci. » « Quoi ?» demanda d'une voix forte mon grand-père, qui était devenu un peu sourd et qui n'avait pas entendu quelque chose que mon cousin venait de dire à mon père. « Rien, répondit le cousin. Je disais seulement que j'avais reçu ce matin une lettre de Combray, où il fait un temps épouvantable, et ici un soleil trop chaud. « Et pourtant le baromètre est très bas, dit mon père. « Où ça, dites-vous, qu'il fait mauvais temps ?» demanda mon grand-père. « À Combray. Ah, cela ne m'étonne pas. Chaque fois qu'il fait mauvais ici, il fait beau à Combray, et vice-versa. Mon Dieu, vous parlez de Combray. A-t-on pensé à prévenir le Grandin ?»« Oui, ne vous tourmentez pas, c'est fait, » dit mon cousin, dont les joues bronzées par une barbe trop forte sourirent imperceptiblement de la satisfaction d'y avoir pensé. À ce moment, mon père se précipita. Je crus qu'il y avait du mieux ou du pire. C'était seulement le docteur Dieu la foi qui venait d'arriver. Mon père alla le recevoir dans le salon voisin, comme l'acteur qui doit venir jouer. On l'avait fait demander, non pour soigner, mais pour constater, en espèce de notaire. Le docteur Dieu la foi a pu en effet être un grand médecin, un professeur merveilleux. À ses rôles divers où il excella, il en joignit un autre dans lequel il fut pendant 40 ans sans rival. Un rôle aussi original que le raisonneur, le scaramouche ou le père noble, et qui était de venir constater l'agonie ou la mort. Son nom déjà présageait la dignité avec laquelle il tiendrait l'emploi. Et quand la servante disait « Monsieur Dieu la foi », on se croyait chez Molière. À la dignité de l'attitude concourait, sans se laisser voir, la souplesse d'une taille charmante. Un visage en soi-même trop beau était amorti par la convenance à des circonstances douloureuses. Dans sa noble redingote noire, le professeur entrait, triste, sans affectation, ne donnait pas une seule condoléance qu'on eût pu croire feinte, et ne commettait pas non plus la plus légère infraction au tact. Au pied d'un lit de mort, c'était lui et non le duc de Guermantes qui était le grand seigneur. Après avoir regardé ma grand-mère sans la fatiguer, et avec un excès de réserve qui était une politesse au médecin traitant, il dit à voix basse quelques mots à mon père, s'inclina respectueusement devant ma mère, à qui je sentis que mon père se retenait pour ne pas dire « Le professeur Dieu la foi ». Mais déjà celui-ci avait détourné la tête, ne voulant pas importuner, et sortit de la plus belle façon du monde en prenant simplement le cachet qu'on lui remit. Il n'avait pas eu l'air de le voir, et nous-mêmes nous demandâmes un moment si nous le lui avions remis, tant il avait mis de la souplesse d'un prestidigitateur à le faire disparaître, sans pour cela perdre rien de sa gravité plutôt accrue de grand consultant à la longue redingote à revers de soie, à la belle tête pleine d'une noble commisération. Sa lenteur et sa vivacité montraient que, si 100 visites l'attendaient encore, il ne voulait pas avoir l'air pressé, car il était le tact, l'intelligence et la bonté même. Cet homme éminent n'est plus. D'autres médecins, d'autres professeurs ont pu l'égaler, le dépasser peut-être. Mais l'emploi ou son savoir, ses dons physiques, sa haute éducation le faisaient triompher, n'existe plus, faute de successeur qui ait su le tenir. Maman n'avait même pas aperçu Monsieur Dieu la foi, tout ce qui n'était pas ma grand-mère n'existant pas. Je me souviens, et j'anticipe ici, qu'au cimetière où on la vit comme une apparition surnaturelle, s'approchait timidement de la tombe et semblant regarder un être envolé qui était déjà loin d'elle, mon père lui ayant dit « Le père Norpois est venu à la maison, à l'église, au cimetière. Il a manqué une commission très importante pour lui. Tu devrais lui dire un mot, cela le toucherait beaucoup. » Ma mère, quand l'ambassadeur s'inclina vers elle, ne put que pencher avec douceur son visage qui n'avait pas pleuré. Deux jours plus tôt, et pour anticiper encore avant de revenir à l'instant même auprès du lit où la malade agonisait, pendant qu'on veillait ma grand-mère morte, Françoise, qui, ne niant pas absolument les revenants, s'effrayait au moindre bruit, disait « Il me semble que c'est elle ». Mais au lieu d'effroi, c'était une douceur infinie que ces mots éveillèrent chez ma mère, qui aurait tant voulu que les morts revinssent pour avoir quelquefois sa mère auprès d'elle. Pour revenir maintenant à ces heures de l'agonie. « Vous savez ce que ces sœurs nous ont télégraphié ?» demanda mon grand-père à mon cousin. « Oui, Beethoven, on m'a dit. » C'est à encadrer, cela ne m'étonne pas. Ma pauvre femme qui les aimait tant, dit mon grand-père en essuyant une larme. Il ne faut pas leur en vouloir. Elles sont folles à lier, je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il y a? On ne donne plus d'oxygène? Ma mère dit. Mais alors, maman va recommencer à mal respirer. Le médecin répondit. « Oh non, l'effet de l'oxygène durera encore un bon moment. Nous recommencerons tout à l'heure. » Il me semblait qu'on n'aurait pas dit cela pour une mourante, que si ce bon effet devait durer, c'est qu'on pouvait quelque chose sur sa vie. Le sifflement de l'oxygène cessa pendant quelques instants. Mais la plainte heureuse de la respiration jaillissait toujours, légère, tourmentée, inachevée, sans cesse recommençante. Par moments, il semblait que tout fût fini, le souffle s'arrêtait, soit par ces mêmes changements d'octave qu'il y a dans la respiration d'un dormeur, soit par une intermittence naturelle, un effet de l'anesthésie, le progrès de l'asphyxie, quelques défaillances du cœur. Le médecin reprit le pouls de ma grand-mère, mais déjà, comme si un affluent venait apporter son tribut au courant asséché, un nouveau chant s'embranchait à la phrase interrompue. Et celle-ci reprenait à un autre diapason, avec le même élan inépuisable. Qui sait si, sans même que ma grand-mère en eût conscience, tant d'états heureux et tendres, comprimés par la souffrance, ne s'échappaient pas d'elle maintenant, comme ces gaz plus légers qu'on refoula longtemps. On aurait dit que tout ce qu'elle avait à nous dire s'épanchait, que c'était à nous qu'elle s'adressait avec cette prolixité, cet empressement, cette effusion. Au pied du lit, convulsée par tous les souffles de cette agonie, ne pleurant pas, mais par moments trempée de larmes, ma mère avait la désolation sans pensée d'un feuillage que cingle la pluie et retourne le vent. On me fit m'essuyer les yeux avant que j'allasse embrasser ma grand-mère. « Mais je croyais qu'elle ne voyait plus, » dit mon père. « On ne peut jamais savoir, » répondit le docteur. Quand mes lèvres la touchèrent, les mains de ma grand-mère s'agitèrent. Elle fut parcourue tout entière d'un long frisson, soit réflexe, soit que certaines tendresses et leur hyperesthésie qui reconnaît à travers le voile de l'inconscience ce qu'elles n'ont presque pas besoin d'essence pour chérir. Tout d'un coup, ma grand-mère se dressa à demi, fit un effort violent, comme quelqu'un qui défend sa vie. Françoise ne put résister à cette vue et éclata en sanglots. Me rappelant ce que le médecin avait dit, je voulus la faire sortir de la chambre. À ce moment, ma grand-mère ouvrit les yeux. Je me précipitai sur Françoise pour cacher ses pleurs, pendant que mes parents parleraient à la malade. Le bruit de l'oxygène s'était tu, le médecin s'éloigna du lit. Ma grand-mère était morte. Quelques heures plus tard, Françoise put une dernière fois, et sans les faire souffrir, peigner ses beaux cheveux, qui grisonnaient seulement, et jusqu'ici avaient semblé être moins âgés qu'elle. Mais maintenant, au contraire, ils étaient seuls à imposer la couronne de la vieillesse sur le visage redevenu jeune, d'où avaient disparu les rides, les contractions, les empattements, les tensions, les fléchissements que, depuis tant d'années, lui avait ajouté la souffrance. Comme au temps lointain où ses parents lui avaient choisi un époux, elle avait les traits délicatement tracés par la pureté et la soumission, les joues brillantes d'une chaste espérance, d'un rêve de bonheur, même d'une innocente gaieté que les années avaient peu à peu détruit. La vie, en se retirant, venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait posé sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort, comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille. Chapitre 2e. Visite d'Albertine. Perspective d'un riche mariage pour quelques amis de Saint-Loup. L'esprit des Guermantes devant la princesse de Parme. Étrange visite à M. de Charlus. Je comprends de moins en moins son caractère. Les souliers rouges de la duchesse. Bien que ce fût simplement un dimanche d'automne, je venais de renaître. L'existence était intacte devant moi, car dans la matinée, après une série de jours doux, il avait fait un brouillard froid qui ne s'était levé que vers midi. Or, un changement de temps suffit à recréer le monde et nous-mêmes. Jadis, quand le vent soufflait dans ma cheminée, j'écoutais les coups qu'il frappait contre la trappe avec autant d'émotion que si, pareils aux fameux coups d'archer par lesquels débute la symphonie en ut mineur, ils avaient été les appels irrésistibles d'un mystérieux destin. Tout changement à vue de la nature nous offre une transformation semblable, en adaptant au mode nouveau des choses nos désirs harmonisés. La brume, dès le réveil, avait fait de moi, au lieu de l'être centrifuge qu'on est par les beaux jours, un homme replié, désireux du coin du feu et du lit partagé. Adam frileux en quête d'une Ève sédentaire dans ce monde différent. Entre la couleur grise et douce d'une campagne matinale et le goût d'une tasse de chocolat, je faisais tenir toute l'originalité de la vie physique, intellectuelle et morale que j'avais apportée une année environ auparavant à Doncière, et qui, blasonnée de la forme oblongue d'une colline pelée, toujours présente même quand elle était invisible, formait en moi une série de plaisirs entièrement distincts de tous autres, indicibles à des amis en ce sens que les impressions richement tissées les unes dans les autres qui les orchestraient les caractérisaient bien plus pour moi et à mon insu que les faits que j'aurais pu raconter. À ce point de vue, le monde nouveau dans lequel le brouillard de ce matin m'avait plongé était un monde déjà connu de moi, ce qui ne lui donnait que plus de vérité, et oublié depuis quelque temps, ce qui lui rendait toute sa fraîcheur. Et je pus regarder quelques-uns des tableaux de bruine que ma mémoire avait acquis, notamment des « matins à Doncière », soit le premier jour au quartier, soit, une autre fois, dans un château voisin où Saint-Loup m'avait emmené passer 24 heures, de la fenêtre dont j'avais soulevé les rideaux à l'aube avant de me recoucher, dans le premier un cavalier, dans le second à la mince lisière d'un étang et d'un bois dont tout le reste était englouti dans la douceur uniforme et liquide de la brume, un cocher en train d'astiquer une courroie m'était apparu comme ces rares personnages à peine distincts par l'œil obligé de s'adapter aux vagues mystérieux des pénombres qui émergent d'une fresque effacée. C'est de mon lit que je regardais aujourd'hui ces souvenirs, car je m'étais recouché pour attendre le moment où, profitant de l'absence de mes parents, partis pour quelques jours à Combray, je comptais ce soir même aller entendre une petite pièce qu'on jouait chez Madame de Villeparisis. Eux, revenus, je n'aurais peut-être osé le faire. Ma mère, dans les scrupules de son respect pour le souvenir de ma grand-mère, voulait que les marques de regret qui lui étaient données le fussent librement, sincèrement. Elle ne m'aurait pas défendu cette sortie. Elle l'eût désapprouvée. De Combray, au contraire, consultée, elle ne m'eût pas répondu par un triste « Fais ce que tu veux, tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire. » Mais se reprochant de m'avoir laissé seule à Paris et jugeant mon chagrin d'après le sien, elle eût souhaité pour lui des distractions qu'elle se fût refusées à elle-même et qu'elle se persuadait que ma grand-mère, soucieuse avant tout de ma santé et de mon équilibre nerveux, m'eût conseillé. Depuis le matin, on avait allumé le nouveau calorifère à eau. Son bruit désagréable, qui poussait de temps à autre une sorte de hoquet, n'avait aucun rapport avec mes souvenirs de Doncière. Mais sa rencontre prolongée avec eux, en moi, cet après-midi, allait lui faire contracter avec eux une affinité telle que chaque fois que, un peu, déshabitué de lui, j'entendrai de nouveau le chauffage central, il me les rappellerait. Il n'y avait à la maison que Françoise. Le jour gris, tombant comme une pluie fine, tissait sans arrêt de transparents filets dans lesquels les promeneurs dominicaux semblaient s'argenter. J'avais rejeté à mes pieds le Figaro que tous les jours je faisais acheter consciencieusement depuis que j'y avais envoyé un article qui n'y avait pas paru. Malgré l'absence de soleil, l'intensité du jour m'indiquait que nous n'étions encore qu'au milieu de l'après-midi. Les rideaux de tulle de la fenêtre, vaporeux et friables, comme ils n'auraient pas été par un beau temps, avaient ce même mélange de douceur et de cassant qu'ont les ailes de libellule et les vers de Venise. Il me pesait d'autant plus d'être seule ce dimanche-là que j'avais fait porter le matin une lettre à Mademoiselle de Stermaria. Robert de Saint-Loup, que sa mère avait réussi à faire rompre après de douloureuses tentatives avortées avec sa maîtresse, et qui, depuis ce moment, avait été envoyé au Maroc pour oublier celle qu'il n'aimait déjà plus depuis quelque temps, m'avait écrit un mot, reçu la veille, où il m'annonçait sa prochaine arrivée en France pour un congé très court. Comme il ne ferait que toucher barre à Paris, où sa famille craignait sans doute de le voir renouer avec Rachel, il m'avertissait, pour me montrer qu'il avait pensé à moi, qu'il avait rencontré à Tanger mademoiselle, ou plutôt madame de Stermaria, car elle avait divorcé après 3 mois de mariage. Et Robert, se souvenant de ce que je lui avais dit à Balbec, avait demandé de ma part un rendez-vous à la jeune femme. « Elle dînerait très volontiers avec moi, » lui avait-elle répondu. « Un de ces jours, avant de regagner la Bretagne, elle passerait à Paris. » Il me disait de me hâter d'écrire à madame de Stermaria, car elle était certainement arrivée. La lettre de Saint-Loup ne m'avait pas étonnée, bien que je n'eusse pas reçu de nouvelles de lui, depuis qu'au moment de la maladie de ma grand-mère, il m'eût accusé de perfidie et de trahison. J'avais très bien compris alors ce qui s'était passé. Rachel, qui aimait à exciter sa jalousie, elle avait des raisons accessoires aussi de m'en vouloir, avait persuadé à son amant que j'avais fait des tentatives sournoises pour avoir, pendant l'absence de Robert, des relations avec elle. Il est probable qu'il continuait à croire que c'était vrai, mais il avait cessé d'être épris d'elle, de sorte que, vrai ou non, celui était devenu parfaitement égal et que notre amitié seule subsistait. Quand, une fois que je l'eus revu, je voulus essayer de lui parler de ses reproches, il eut seulement un bon et tendre sourire par lequel il avait l'air de s'excuser. Puis il changea de conversation. Ce n'est pas qu'il ne dût un peu plus tard, à Paris, revoir quelquefois Rachel. Les créatures qui ont joué un grand rôle dans notre vie, il est rare qu'elles en sortent tout d'un coup d'une façon définitive. Elles reviennent s'y poser par moments, au point que certains croient à un recommencement d'amour, avant de la quitter à jamais. La rupture de Saint-Loup avec Rachel lui était très vite devenue moins douloureuse, grâce au plaisir apaisant que lui apportaient les incessantes demandes d'argent de son ami. La jalousie qui prolonge l'amour ne peut pas contenir beaucoup plus de choses que les autres formes de l'imagination. Et si l'on emporte, quand on part en voyage, 3 ou 4 images qui du reste se perdront en route, les lys et les anémones du Ponte Vecchio, l'église persane dans les brumes, etc., la malle est déjà bien pleine. Quand on quitte une maîtresse, on voudrait bien, jusqu'à ce qu'on l'ait un peu oubliée, qu'elle ne devint pas la possession de 3 ou 4 entreteneurs possibles et qu'on se figure, c'est-à-dire dont on est jaloux. Tout ce qu'on ne se figure pas ne sont rien. Or, les demandes d'argent fréquentes d'une maîtresse quittée ne vous donne pas plus une idée complète de sa vie que des feuilles de température élevées ne donneraient de sa maladie. Mais les secondes seraient tout de même un signe qu'elle est malade, et les premières fournissent une présomption, assez vague il est vrai, que la délaissée ou délaisseuse n'a pas dû trouver grand-chose comme riche protecteur. Aussi, chaque demande est-elle accueillie avec la joie que produit une accalmie dans la souffrance du jaloux, et suivie immédiatement d'envois d'argent, car on veut qu'elle ne manque de rien, sauf d'amant, d'un des 3 amants qu'on se figure, le temps de se rétablir un peu soi-même et de pouvoir apprendre sans faiblesse le nom du successeur. Quelquefois, Rachel revint assez tard dans la soirée pour demander à son ancien amant la permission de dormir à côté de lui jusqu'au matin. C'était une grande douceur pour Robert, car il se rendait compte combien ils avaient tout de même vécu intimement ensemble. Rien qu'à voir que, Même s'il prenait à lui seul une grande moitié du lit, il ne la dérangeait en rien pour dormir. Il comprenait qu'elle était près de son corps, plus commodément qu'elle n'eût été ailleurs, qu'elle se retrouvait à son côté, fût-ce à l'hôtel, comme dans une chambre anciennement connue où l'on a ses habitudes, où on dort mieux. Il sentait que ses épaules, ses jambes, tout lui était pour elle, même quand il remuait trop par insomnie ou travail à faire, de ces choses si parfaitement usuelles qu'elles ne peuvent gêner et que leur perception ajoute encore à la sensation du repos. Pour revenir en arrière, j'avais été d'autant plus troublée par la lettre de Robert que je lisais entre les lignes, ce qu'il n'avait pas osé écrire plus explicitement. « Tu peux très bien l'inviter en cabinet particulier, » me disait-il. « C'est une jeune personne charmante, d'un délicieux caractère. Vous vous entendrez parfaitement, et je suis certain d'avance que tu passeras une très bonne soirée. » Comme mes parents rentraient à la fin de la semaine, samedi ou dimanche, et qu'après je serais forcée de dîner tous les soirs à la maison, j'avais aussitôt écrit à Madame de Stermaria pour lui proposer le jour qu'elle voudrait jusqu'à vendredi. On avait répondu que j'aurais une lettre vers 8 heures ce soir même. Je l'aurais atteint assez vite si j'avais eu, pendant l'après-midi qui me séparait de lui, le secours d'une visite. Quand les heures s'enveloppent de causeries, on ne peut plus les mesurer, même les voir. Elles s'évanouissent, et tout d'un coup c'est bien loin du point où il vous avait échappé que reparaît devant votre attention le temps agile et escamoté. Mais si nous sommes seuls, la préoccupation, en ramenant devant nous le moment encore éloigné et sans cesse attendu, avec la fréquence et l'uniformité d'un tic-tac, divise, ou plutôt multiplie les heures par toutes les minutes qu'entre amis nous n'aurions pas comptées. Et confronté par le retour incessant de mon désir à l'ardent plaisir que je goûterai dans quelques jours seulement, hélas, avec Madame de Stermaria, cet après-midi que j'allais achever seule me paraissait bien vide et bien mélancolique. Par moments, j'entendais le bruit de l'ascenseur qui montait, mais il était suivi d'un second bruit, non celui que j'espérais, l'arrêt à mon étage, mais d'un autre fort différent que l'ascenseur faisait pour continuer sa route et lancer vers les étages supérieurs, et qui, parce qu'il signifia si souvent la désertion du mien quand j'attendais une visite, est resté pour moi plus tard, même quand je n'en désirais plus aucune, un bruit par lui-même douloureux, où résonnait comme une sentence d'abandon. Las, résigné, occupé pour plusieurs heures encore à sa tâche immémoriale, la grise journée filait sa passementerie de nacre, et je m'attristais de penser que j'allais rester seule en tête à tête avec elle qui ne me connaissait pas plus qu'une ouvrière, qui, installée près de la fenêtre pour voir plus clair en faisant sa besogne, ne s'occupe nullement de la personne présente dans la chambre. Tout d'un coup, sans que j'eusse entendu sonner, Françoise vint ouvrir la porte, introduisant Albertine qui entra souriante, silencieuse, replète, contenant dans la plénitude de son corps, préparée pour que je continue à aller vivre, venue vers moi, les jours passés dans ce Balbec où je n'étais jamais retournée. Sans doute, chaque fois que nous revoyons une personne avec qui nos rapports, si insignifiants soient-ils, se trouvent changés, c'est comme une confrontation de deux époques. Il n'y a pas besoin pour cela qu'une ancienne maîtresse vienne nous voir en amie. Il suffit de la visite à Paris de quelqu'un que nous avons connu dans l'au jour le jour d'un certain genre de vie, et que cette vie ait cessé, fût-ce depuis une semaine seulement. Sur chaque trait rieur, interrogatif et gêné du visage d'Albertine, je pouvais épeler ses questions. « Et Madame de Villeparisis ? Et le maître de danse ? Et le pâtissier ? quand elle s'assit, son dos eut l'air de dire « Dame, il n'y a pas de falaise ici. Vous permettez que je m'asseye tout de même près de vous, comme j'aurais fait à Balbec ?» Elle semblait une magicienne, me présentant un miroir du temps. En cela, elle était pareille à tous ceux que nous revoyons rarement, mais qui jadis vécurent plus intimement avec nous. Mais avec Albertine, il n'y avait que cela. Certes, même à Balbec, dans nos rencontres quotidiennes, j'étais toujours surpris en l'apercevant tant elle était journalière. Mais maintenant, on avait peine à la reconnaître. Dégagée de la vapeur rose qui les baignait, ses traits avaient sailli comme une statue. Elle avait un autre visage, ou plutôt, elle avait enfin un visage. Son corps avait grandi, il ne restait presque plus rien de la gaine où elle avait été enveloppée et sur la surface de laquelle, à Balbec, sa forme future se dessinait à peine. Albertine, cette fois, rentrait à Paris plus tôt que de coutume. D'ordinaire, elle n'y arrivait qu'au printemps, de sorte que, déjà troublée depuis quelques semaines par les orages sur les premières fleurs, je ne séparais pas, dans le plaisir que j'avais, le retour d'Albertine et celui de la belle saison. Il suffisait qu'on me dise qu'elle était à Paris et qu'elle était passée chez moi pour que je la revisse comme une rose au bord de la mer. Je ne sais trop si c'était le désir de Balbec ou d'elle qui s'emparait de moi alors. Peut-être le désir d'elle étant lui-même une forme paresseuse, lâche et incomplète, de posséder Balbec. Comme si posséder matériellement une chose, faire sa résidence d'une ville, équivalait à la posséder spirituellement. Et d'ailleurs, même matériellement, quand elle était non plus balancée par mon imagination devant l'horizon marin, mais immobile auprès de moi, elle me semblait souvent une bien pauvre rose devant laquelle j'aurais bien voulu fermer les yeux pour ne pas voir tel défaut des pétales et pour croire que je respirais sur la plage. Je peux le dire ici, bien que je ne susse pas alors ce qui ne devait arriver que dans la suite. Certes, il est plus raisonnable de sacrifier sa vie aux femmes qu'aux timbres-poste, aux vieilles tabatières, même aux tableaux et aux statues. Seulement, l'exemple des autres collections devrait nous avertir de changer, de n'avoir pas une seule femme, mais beaucoup. Et ces mélanges charmants qu'une jeune fille fait avec une plage, avec la chevelure tressée d'une statue d'église, avec une estampe, avec tout ce à cause de quoi on aime en l'une d'elles, chaque fois qu'elle entre, un tableau charmant, et ces mélanges ne sont pas très stables. Vivez tout à fait avec la femme, et vous ne verrez plus rien de ce qui vous l'a fait aimer. Certes, les deux éléments désunis, la jalousie peut à nouveau les rejoindre. Si après un long temps de vie commune, je devais finir par ne plus voir en Albertine qu'une femme ordinaire, quelque intrigue d'elle avec un être qu'elle eût aimé à Balbec eût peut-être suffi pour réincorporer en elle et amalgamer la plage et le déferlement du flot. Seulement, ces mélanges secondaires ne ravissant plus nos yeux, c'est à notre cœur qu'ils sont sensibles et funestes. On ne peut, sous une forme si dangereuse, trouver souhaitable le renouvellement du miracle. Mais j'anticipe les années, et je dois seulement ici regretter de n'être pas resté assez sage pour avoir eu simplement ma collection de femmes, comme on en a des lorgnettes anciennes, jamais assez nombreuses derrière une vitrine, où toujours une place vide attend une lorgnette nouvelle et plus rare. Contrairement à l'ordre habituel de ces villégiatures, cette année elle venait directement de Balbec, et encore y était-elle restée bien moins tard que d'habitude. Il y avait longtemps que je ne l'avais vue. Et comme je ne connaissais pas, même de nom, les personnes qu'elle fréquentait à Paris, je ne savais rien d'elle pendant les périodes où elle restait sans venir me voir. Celle-ci était souvent assez longue. Puis, un beau jour, surgissait brusquement Albertine, dont les roses apparitions et les silencieuses visites me renseignaient assez peu sur ce qu'elle avait pu faire dans leur intervalle, qui restait plongée dans cette obscurité de sa vie que mes yeux ne se souciaient guère de percer. Cette fois-ci, pourtant, certains signes semblaient indiquer que des choses nouvelles avaient dû se passer dans cette vie. Mais il fallait peut-être tout simplement induire d'eux qu'on change très vite à l'âge qu'avait Albertine. Par exemple, son intelligence se montrait mieux, et quand je lui reparlais du jour où elle avait mis tant d'ardeur à imposer son idée de faire écrire par Sophocle « Mon cher Racine », elle fut la première à rire de bon cœur. « C'est André qui avait raison, j'étais stupide, » dit-elle. Il fallait que Sophocle écrive « Monsieur ». Je lui répondis que le « Monsieur » et le « Cher Monsieur » d'André n'étaient pas moins comiques que son « Mon cher Racine » à elle et le « Mon cher ami » de Gisèle, mais qu'il n'y avait au fond de stupide que des professeurs faisant encore adresser par Sophocle une lettre à Racine. Là, Albertine ne me suivit plus. Elle ne voyait pas ce que cela avait de bête. Son intelligence s'en trouverait, mais n'était pas développée. Il y avait des nouveautés plus attirantes en elle. Je sentais, dans la même jolie fille qui venait de s'asseoir près de mon lit, quelque chose de différent. Et dans ces lignes, qui, dans le regard et les traits du visage, expriment la volonté habituelle, un changement de front, une demi-conversion, comme si avaient été détruites ces résistances contre lesquelles je m'étais brisée à Balbec, un soir déjà lointain, où nous formions un couple symétrique mais inverse de celui de l'après-midi actuel, puisque alors c'était elle qui était couchée et moi à côté de son lit. Voulant et n'osant m'assurer si maintenant elle se laisserait embrasser, chaque fois qu'elle se levait pour partir, je lui demandais de rester encore. Ce n'était pas très facile à obtenir, car bien qu'elle n'eût rien à faire, sans cela, elle eût bondi au dehors. Elle était une personne exacte, et d'ailleurs peu aimable avec moi, ne semblant guère se plaire dans ma compagnie. Pourtant, chaque fois, après avoir regardé sa montre, elle se rasseyait à ma prière, de sorte qu'elle avait passé plusieurs heures avec moi et sans que je lui eusse rien demandé. Les phrases que je lui disais se rattachaient à celles que je lui avais dites pendant les heures précédentes et ne rejoignaient en rien ce à quoi je pensais, ce que je désirais, lui restaient indéfiniment parallèles. Il n'y a rien comme le désir pour empêcher les choses qu'on dit d'avoir aucune ressemblance avec ce qu'on a dans la pensée. Le temps presse, et pourtant il semble qu'on veuille gagner du temps en parlant de sujets absolument étrangers à celui qui nous préoccupe. On cause, alors que la phrase qu'on voudrait prononcer serait déjà accompagnée d'un geste, à supposer même que, pour se donner le plaisir de l'immédiat et assouvir la curiosité qu'on éprouve à l'égard des réactions qui l'amènera sans maudire, sans demander aucune permission, on n'ait pas fait ce geste. Certes, je n'aimais nullement Albertine. Fille de la brume du dehors, elle pouvait seulement contenter le désir imaginatif que le temps nouveau avait éveillé en moi, et qui était intermédiaire entre les désirs que peuvent satisfaire d'une part les arts de la cuisine et ceux de la sculpture monumentale, car il me faisait rêver à la fois de mêler à ma chair une matière différente et chaude, et d'attacher par quelques points à mon corps étendu un corps divergent, comme le corps d'Ève tenait à peine par les pieds à la hanche d'Adam, au corps duquel elle est presque perpendiculaire, dans ces bas-reliefs romans de la cathédrale de Balbec, qui figurent d'une façon si noble et si paisible, presque encore comme une frise antique, la création de la femme. Dieu y est partout suivi, comme par deux ministres, de deux petits anges, dans lesquels on reconnaît, telles ces créatures zélées et tourbillonnantes de l'été que l'hiver a surprises et épargnées, des amours d'Herculanum encore en vie en plein XIIIe siècle, étrennant leur dernier vol, là, mais ne manquant pas à la grâce qu'on peut attendre d'eux, sur toute la façade du porche. Or, ce plaisir, qui en accomplissant mon désir m'eût délivré de cette rêverie, et que j'eusse tout aussi volontiers cherché en n'importe quelle autre jolie femme, si l'on m'avait demandé sur quoi, au cours de ce bavardage interminable où je taisais à Albertine la seule chose à laquelle je pensasse, se basait mon hypothèse optimiste au sujet des complaisances possibles. J'aurais peut-être répondu que cette hypothèse était due, tandis que les traits oubliés de la voix d'Albertine redessinaient pour moi le contour de sa personnalité, à l'apparition de certains mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire, au moins dans l'acception qu'elle leur donnait maintenant. Comme elle me disait qu'Elstir était bête et que je me récriais, « Vous ne me comprenez pas, » répliqua-t-elle en souriant. « Je veux dire qu'il a été bête en cette circonstance, mais je sais parfaitement que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. » De même, pour dire du golfe de Fontainebleau qu'il était élégant, elle déclara « C'est tout à fait une sélection. » À propos d'un duel que j'avais eu, elle me dit de mes témoins « Ce sont des témoins de choix. » Et, regardant ma figure, avoua qu'elle aimerait me voir porter la moustache. Elle a la même, et mes chances me parurent alors très grandes, jusqu'à prononcer, terme que, je l'eusse juré, elle ignorait l'année précédente, que depuis qu'elle avait vu Gisèle, il s'était passé un certain laps de temps. Ce n'est pas qu'Albertine ne possédât déjà, quand j'étais à Balbec, un lot très sortable de ces expressions qui décèlent immédiatement qu'on est issu d'une famille aisée, et que, d'année en année, une mère abandonne à sa fille, comme elle lui donne, au fur et à mesure qu'elle grandit, dans les circonstances importantes, ses propres bijoux. On avait senti qu'Albertine avait cessé d'être une petite enfant, quand, un jour, pour remercier d'un cadeau qu'une étrangère lui avait fait, elle avait répondu « Je suis confuse. » Madame Bontemps n'avait pu s'empêcher de regarder son mari qui avait répondu « Dame, elle va sur ses 14 ans. » La nubilité plus accentuée s'était marquée quand Albertine, parlant d'une jeune fille qui avait mauvaise façon, avait dit « On ne peut même pas distinguer si elle est jolie. Elle a un pied de rouge sur la figure. » Enfin, quoique jeune fille encore, elle prenait déjà des façons de femme de son milieu et de son rang, en disant, si quelqu'un faisait des grimaces, « Je ne peux pas le voir, parce que j'ai envie d'en faire aussi. » Ou, si on s'amusait à des imitations, « Le plus drôle quand vous la contrefaites, c'est que vous lui ressemblez. » Tout cela est tiré du trésor social. Mais justement, le milieu d'Albertine ne me paraissait pas pouvoir lui fournir « distinguer » dans le sens où mon père disait de tel de ses collègues qu'il ne connaissait pas encore et dont on lui vantait la grande intelligence. « Il paraît que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. » Sélection, même pour le golf, me parut aussi incompatible avec la famille Simonet qu'il le serait, accompagné de l'adjectif « naturel » avec un texte antérieur de plusieurs siècles aux travaux de Darwin. Laps de temps me sembla de meilleur augure encore. Enfin, m'apparut l'évidence de bouleversements que je ne connaissais pas, mais propres à autoriser pour moi toutes les espérances. Quand Albertine me dit, avec la satisfaction d'une personne dont l'opinion n'est pas indifférente, « C'est, à mon sens, ce qui pouvait arriver de mieux. » J'estime que c'est la meilleure solution, la solution élégante. C'était si nouveau, si visiblement une alluvion laissant soupçonner de si capricieux détours à travers des terrains jadis inconnus d'elle, que, dès les mots, à mon sens, j'attirais Albertine et, ah, j'estime, je l'assise sur mon lit.